I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yes!
Go ahead. Goal line. Touchdown.
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 Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode Draft sur Touchdown Actu. Victor Houli au micro, très heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler Edge, on va parler des pass rushers de cette draft. Et pour m'accompagner, Jean-Michel Boujard, bonjour à toi.
Bonjour Victor, bonjour tout le monde.
Bon, une classe, on en parlait un peu en dehors du micro, mais une classe intrigante. Pas forcément avec des noms ronflants comme on peut l'avoir sur certaines années. Il n'y aura pas de Chase Young cette année. Ça, on peut déjà l'annoncer en termes de hype en tout cas. Mais on a du beau profil.
Donc, et comme du varié.
Ouais, c'est très varié. Il y a un peu tout. Donc comme on l'a fait pour les autres, on va avoir un premier chapeau, un deuxième chapeau, des valeurs sûres, des énigmes, des sleepers. On perd pas de temps parce qu'on a beaucoup de noms à évoquer. On va tout de suite aller sur le chapeau numéro 1.
Okay, here we go. With the first pick in the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU.
Le chapeau numéro 1. Quatre noms pour nous accompagner. Kwity Paye, Michigan. Aziz Ojulari, Georgia. Jaden Phillips, Miami. Grégory Rousseau, Miami. Et on va voir, Miami est vraiment l'université en vue dans cette liste. On en parlera, même si deux des trois joueurs sont des transferts d'autres universités. On va tout de suite avoir ce petit échange un peu ping-pong comme on l'a eu sur d'autres postes, à savoir qui est le plus quelque chose. Et je te mets tout de suite on the spot. Première catégorie, le plus athlétique de ces quatre-là, pour toi, qui est le plus athlétique de cette QV?
Ah, je dirais Kwity Paye. C'est vrai que de prime abord, j'aurais pensé Grégory Rousseau, mais en fait, Kwity Paye, c'est vraiment un monstre athlétique. Après, c'est pas étonnant, au lycée, il faisait aussi du saut en longueur, il faisait du relais 4x100, enfin, c'est vraiment un monstre. Et puis, comme tu le rappelais, dans la liste des freak athlètes d'avant-saison, voilà, Kwity Paye était tout en haut. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de combine cette année, parce qu'il aurait sans doute tout cassé.
Ah, je pense qu'il aurait battu les trois cônes de Von Miller, mais c'est vrai que Kwity Paye, on le dit, 1m93, 123 kilos. Bon, des stats, je les donne, hein, mais c'est sur 4 matchs, enfin 3 matchs et demi. Il a fait 16 plaquages, donc 4 pour perte et 2 sacs. Donc c'est vrai que sa production n'est pas énorme en université, et ça peut en inquiéter certains. Dans un podcast qu'on avait fait où on débattait de Paye et de Rousseau, Alexandre l'avait mis en lumière notamment. Mais c'est vrai que bon, c'est plus sa production sur les différentes années qui interpelle, parce que sur cette année-là. C'est une saison tellement tronquée que c'est difficile. Je suis d'accord avec toi. Clairement, Kwity Paye, c'est le monstre athlétique. Grégory Rousseau, c'est très bon aussi. C'est 2m01, 120 kg. On le rappelle, Grégory Rousseau opt-out en 2020. Alors qu'en 2019, pour sa saison sophomore, il avait fait 54 plaquages, dont 19,5 pour perte, 15,5 sacs, une passe défendue, un fumble provoqué, deux fumbles provoqués, un fumble récupéré. Donc vraiment des statistiques assez impressionnantes à relativiser avec la conférence dans laquelle est Miami, mais ça reste quand même du très bon. Deuxième catégorie, le plus rapide de ces quatre-là, pour toi c'est qui?
Ah, c'est Aziz Ojulari. C'est une bombe ce mec, une bombe. Et je vais évoquer Von Miller. Alors évidemment, on va penser Von Miller, c'est un All-Pro. Je ne sais pas si Ojulari sera un All-Pro, mais il fait penser à Von Miller dans son explosivité. Il est vraiment extrêmement rapide. Et puis, il me fait penser aussi à Von Miller dans le sens où c'est vraiment un gars, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui peut jouer sur une 3-4 comme sur une 4-3. C'est-à-dire, il peut même jouer en tant que linebacker sur le second rideau et puis exploser à partir de là. Et très, très rapide.
Non, je suis d'accord, une polyvalence assez folle et une rapidité extraordinaire. Lui aussi peu expérimenté, comme Rousseau, puisque c'est un redshirt sophomore, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais.
Cette année, donc 1m90, 108 kg, cette année 31 plaquages, dont 12,5 pour perte, 9,5 sacs, 2 passes défendues, un fumble récupéré et 4 fumbles forcés. Donc mine de rien, il n'a pas le physique d'un Pay ou d'un Rousseau, mais il a quand même un bel impact parce qu'il provoque du fumble. Il a explosé cette année. On savait qu'il y avait du potentiel, ça c'était sûr, mais on s'attendait peut-être pas à une explosion aussi rapide et du coup à ce qu'il postule à la draft dès cette année, alors que, on va dire, avant la saison, on l'attendait peut-être plutôt pour la draft 2022. Troisième catégorie, qui est pour toi aujourd'hui le plus technique, le plus mature techniquement dans le placement des mains, dans le placement des pieds, dans l'utilisation de son corps? Si tu devais en donner un, qui est-ce que tu donnerais?
Je parlerai encore de Kwity Paye. Parce que c'est vrai que ses stats sont pas folles, mais déjà à Michigan, on a vu que tous, ils sont pas super productifs, etc. Mais Kwity Paye, tout ce qu'il fait, ça bénéficie également aux autres. Et c'est quelqu'un qui est aussi bon contre le jeu de passe pour mettre la pression, quelqu'un qui est très bon dans le run-stop aussi, quelqu'un qui utilise bien son corps, quelqu'un qui a une bonne technique. Moi, je trouve que c'est le plus abouti.
Alors moi, j'aurais un autre nom, pour le coup.
Peut-être Phillips,
voilà, j'irai oui. sur Jadean Phillips, dont on n'a pas encore parlé. 1m90, 120 kg, Miami lui aussi, donc. 45 plaquages, donc 15,5 pour perte, 8 sacs, 1 interception et 3 passes défendues. Il a pris un peu le rôle de rusher majeur de Miami avec l'absence de Grégory Rousseau. Et je trouve que c'est peut-être le plus limité physiquement des quatre, au sens où il a quand même des dimensions physiques qui sont suffisantes, mais c'est pas aussi impressionnant sur le terrain que peuvent être les trois autres. Mais ça reste quelqu'un, malgré une expérience limitée aussi, puisqu'il a 20 matchs en 3 saisons. On rappelle que, on disait avant, hein, c'était le lycéen numéro 1, recruté par UCLA. Il a eu de nombreuses blessures et ça a un peu freiné sa carrière universitaire. Mais il a fait une bonne saison cette année. Je trouve que en défense de course, pour moi, c'est le meilleur des 4. Dans l'intelligence, dans le placement, dans la qualité de plaquage, là où paye parfois la qualité de plaquage, peut être un petit peu difficile. Je dirais Jadean Phillips. Je pense que c'est le plus mûr techniquement. Par contre, du coup, c'est peut-être lui qui a la moins grosse marge de progression. Là-dessus, je pense qu'il est arrivé un peu à maturation.
Ouais, je te rejoins là-dessus, en fait. J'hésitais avec Phillips, et si je ne l'ai pas mentionné, c'est parce que tu viens de parler de blessures, mais c'est carrément des blessures. Alors, il a eu blessure au poignet, à la cheville, beaucoup de commotion. Il a même carrément arrêté le football. Il faut savoir que donc, il était à UCLA, et s'il est parti à Miami, c'est pas comme une recrue football. Il est parti à Miami pour étudier la production musicale. C'était un choix académique. Et c'est là-bas que finalement, au bout de quelques temps, il a eu l'aval des médecins pour reprendre le football. Mais c'est pour ça que techniquement, malheureusement, il a raté deux saisons pleines et il a encore beaucoup de progrès à faire. Mais sinon, effectivement, son jeu, il y a quand même de la maturité.
Non, je suis d'accord avec toi. La quatrième catégorie, on y a peut-être déjà un peu répondu, mais qui est le meilleur pour la défense de course? Parce que c'est vrai que The Edge, on se focalise souvent sur le nombre de sacs, parce que c'est bien beau d'aller tacler le quarterback adverse, mais c'est important de défendre les coureurs aussi. Pour toi, en run stop, le meilleur, c'est...
Ah ben, c'est Jalen Phillips. Ouais, ouais, c'est lui le meilleur, ouais. Après, j'aime bien aussi ce que fait Kloutipa hier contre la course, mais non, s'il faut en détacher un, c'est Jalen Phillips. Effectivement, son envergure, sa façon de chasser, sa façon de plaquer aussi, pour moi, c'est le meilleur en run stop.
Et moi, je vais évoquer le moins aussi de cette catégorie. Pour moi, aujourd'hui, le moins, c'est Gregory Rousseau. Ça ne veut pas dire qu'il sera mauvais dans cette catégorie quand il va progresser au fil des années, mais aujourd'hui, il est encore un peu naïf sur sa saison 2019. Il voulait tellement faire beaucoup de sacs que parfois, il se projette beaucoup trop vite vers l'avant sans se dire « Ah tiens, là, il faudrait peut-être que je reste en position parce que je vais avoir à bouger latéralement et pas forcément vers le lanceur. » Donc, c'est peut-être là où ça pêche un peu, mais globalement, c'est un joueur très brut, on l'a déjà dit dans les nombreux podcasts, et il y a beaucoup de choses à améliorer, mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'améliorera pas. Mais aujourd'hui, il en est là. La catégorie suivante, c'est de savoir qui est le plus polyvalent. Et là, du coup, peut-être qu'on va passer un par un aussi derrière pour savoir dans quel système tu les imagines. Parce que polyvalence, ça peut être polyvalence dans le jeu, mais ça peut être polyvalence dans les systèmes aussi. Donc déjà, toi, la polyvalence, comment tu analyses cette notion et quel joueur que tu as envie de prendre?
Le plus polyvalent, moi, je pense surtout à deux joueurs. Donc, je commencerai par Aziz Ojulari, puisque je l'ai un petit peu évoqué. Je pense qu'il peut jouer dans les deux systèmes, en 34 ou en 43. Et sinon, je pense aussi à Gregory Rousseau, parce qu'effectivement, il manque un petit peu sur le run-stop. Mais par contre, pour mettre la pression, c'est quelqu'un qui le fait très bien depuis l'extérieur, en edge, mais qui le fait aussi très bien depuis l'intérieur. Donc en plus avec son envergure, s'il prend un tout petit peu de poids, c'est vraiment quelqu'un. Alors je dis pas qu'il va jouer defensive tackle, bien sûr que non, mais c'est un joueur qui sur par exemple troisième tentative, tu le fais glisser à l'intérieur et il va te battre le guard avec son envergure, avec sa vitesse, et ça sera vraiment un mismatch quoi.
Alors je suis totalement d'accord, mais est-ce qu'on peut du coup se mettre d'accord sur le fait que Gregory Rousseau, ce serait vraiment dommage de le voir évoluer dans une 3-4? Il semble fait pour une 4-3, on est d'accord là-dessus.
Ouais, exactement. Ouais.
Aziz Ojulari, on l'a dit, bon, lui, il peut faire 3-4-4-3, là-dessus, il n'y a pas beaucoup de doutes. Kwity-Paye, moi, je verrais plus en 34, pour le coup.
Ouais, c'est là-dessus qu'on n'est pas forcément d'accord. Après, moi, je le vois bien en 34 aussi. Hein. Mais vu son gabarit, c'est quand même quelqu'un de plutôt massif, vraiment très musclé. Moi, je le vois bien aussi dans une 4-3. Hein. Parce qu'en Edge-Setter, il est plutôt bon. Hein. Enfin, ouais, Edge-Setter, après, excusez-moi, c'est pour... C'est contrôler un côté, contre la course. Ouais, moi, je le vois bien aussi en 43.
Non, je comprends tout à fait. Après, c'est vrai que moi, ce qui me dérange un peu, c'est son manque de mouvement intérieur. On a l'impression qu'il est très réticent à aller vers l'intérieur. Et du coup, quitte à être 100% à l'extérieur, je me dis, va en 3-4 et éclate-toi. Là où, et en plus, je pense qu'avec un peu de coaching, il peut être bon en couverture aérienne aussi, vu son physique. Mais bon. C'est vrai que c'est un joueur... avec un tel physique, de toute façon, tu peux aller à peu près partout si t'es bien coaché. Il nous reste Jaden Phillips.
Donc, a priori, je le verrais plus en 43, tu vois.
Ouais,
en defensive end sur l'extérieur, en 43.
Ouais, je pense que là-dessus, on est d'accord. Enfin, c'est 43 pour moi aussi, il n'y a pas trop de débat. Bon, on a fait un peu le tour de ces quatre joueurs. Est-ce que il y en a un sur lequel tu veux ajouter quelque chose? Peut-être lequel est pour toi, si on a besoin d'une aide immédiate, le premier jour, lequel tu vois apporter dès le premier jour à son équipe?
Pour moi, c'est Kwity-Paye. Parce que c'est pas le plus flashy des quatre. Je suis même pas certain que ça sera le meilleur des quatre. Mais je pense que c'est le plus pro-ready dès le premier jour. Je pense que c'est lui. Et une autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que le 29 mars, il faudra bien suivre le Pro Day de Miami. Parce que du coup, on n'a pas de combine cette année. Donc là, on verra trois joueurs et on verra un petit peu comment ils se testent au niveau athlétique.
Et oui, parce qu'on en a parlé de deux, mais il y en a un troisième qui arrive. Oui, Paye, je suis d'accord avec toi. Phillips aussi me semble prêt, là où Ojulari et Rousseau nécessiteront un peu plus de travail et auront sûrement un rôle un peu limité en première année. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne deviendront pas des grands joueurs, mais ils auront un rôle un peu limité. Si tu devais faire un classement là des 4, 1, 2, 3, 4, tout de suite, tu... voire même si tu veux en ajouter un autre, si t'es pas d'accord avec ce top 4, hein, mais tu les classerais comment ?
C'est difficile, si c'est mon goût personnel, moi je mets Gregorio et Rousseau en premier. Je mettrai Kwitipay en deuxième parce qu'il me paraît plutôt prêt et puis il me donne quand même beaucoup d'assurance. Il est très solide comme joueur. Je pense qu'ensuite, je mettrai Aziz Ojulari parce qu'il est tellement explosif. Et ensuite, Jalen Phillips. Mais franchement, tu peux me donner un autre classement et je ne serai pas choqué.
Dis-moi. Ouais, moi, j'ai en 1 Pay, en 2 Ojulari, en 3 Rousseau, en 4 Phillips. Donc en fait, la vraie différence, c'est la croyance en le potentiel de Gregory Rousseau en fait. Enfin, oui. Sachant qu'après, je mets troisième de la liste. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est une buse. Hein. Enfin, remettons les choses dans le contexte. On est dans le chapeau numéro 1. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir aller tout de suite dans notre chapeau numéro 2. Et dans notre chapeau numéro 2, il y a du beau monde. Il y a un premier joueur dont on va parler, qui est Joseph Osaï. Parce que, on va le dire hein, dans nos discussions de préparation... C'est un peu le numéro 5. C'est celui dont on se disait, est-ce qu'il est chapeau 1, est-ce qu'il est chapeau 2 ? Il aurait très bien pu aller dans le chapeau 1. Ça aurait pas forcément choqué. Donc Joseph Osaï, Texas, 1m93, 114 kg. Ses statistiques, 55 plaquages, 15,5 pour perte, 5,5 sacs, 2 passes défendues, 1 fumble recouvert et 3 fumbles forcés. Parle-nous de ce joueur, donne-nous l'adjectif qui permettrait de définir et pourquoi il est, entre guillemets, le leader de ce deuxième chapeau.
Ah, l'adjectif, c'est actif. C'est un joueur très actif tout au long du match et à tous les matchs. C'est quelqu'un qui a un très gros moteur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand le ballon est engagé, eh ben, il joue, il continue, même s'il est bloqué par un tackle, par exemple, ou quand le jeu se passe de l'autre côté, ben, ce n'est pas un souci, il recule, il tourne, il continue à poursuivre, il ne s'arrête jamais, il a un très gros moteur. Et donc, il est bon pour mettre la pression, il est bon aussi en run-stop. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi son expérience à Texas, c'est-à-dire que cette année, il a vraiment joué sur le premier rideau en tant que defensive end. Mais l'année dernière, il jouait plutôt comme un linebacker. D'ailleurs, il a plus un physique de linebacker. Il sait faire vraiment les deux. C'est quelque chose c'est quelqu'un qui va apporter vraiment dans tous les domaines, contre la course et contre la passe.
Oui, et clairement, le match qui a illuminé un peu sa saison, c'est Oklahoma State, où il fait, je ne sais plus, 6 ou 7 plaquages pour perte et 3 sacs. Donc, c'est vrai que c'est un joueur qui a une faiblesse. En tout cas, aujourd'hui, c'est la couverture de passe. Ça, c'est sûr. Et ça va l'exposer d'une certaine manière. C'est un gabarit qui peut être limité, même si, personnellement, je pense qu'il est suffisant. Mais comme tu le dis, c'est une activité hors norme. Et c'est clairement... Moi, ça fait partie de ces joueurs. J'arrive pas à l'enlever d'une équipe. C'est moi, je voudrais le voir aux Titans.
Ah, oui.
Moi,
oui,
je voudrais voir ce joueur aux Titans. Je pense que ça peut être vraiment extraordinaire. Donc... à voir, mais c'est comme tu dis, c'est un moteur qui a beaucoup d'essence. il a beaucoup de carburant et même dans le quatrième carton, il est toujours aussi actif. On a donc un trio derrière dans le chapeau 2. Et là, on commence à arriver sur des profils un peu plus clivants ou en tout cas avec des grosses zones de doute. Donc on a Cardoz Basham Jr., 1m96, 129 kg de Wake Forest, 31 plaquages, 4,5 pour perte, 5 sacs, une passe défendue et 4 fumbles forcés. On a Jason Away, 1m96, 114 kg de Penn State, 38 plaquages, 6,5 pour perte, une passe défendue. Et Ronnie Perkins, 1m90, 112 kg, Oklahoma, 23 plaquages, dont 10,5 pour perte et 5,5 sacs. Je vais te faire commencer par Cardoz Basham, qui est peut-être le moins polémique des trois. Donc, il évolue à Wake Forest, qui n'est pas l'université la plus réputée, mais enfin, c'est loin d'être un frein non plus. Qu'est-ce qui te plaît chez ce joueur ? Quels adjectifs tu voudrais utiliser pour lui ?
Ah, il est costaud. Très costaud. Très costaud. Et puis, c'est quelqu'un qui est productif depuis 3 saisons. Tu vois, on parlait tout à l'heure dans le premier chapeau de qui est prêt dès le premier jour. Cardoz Basham, il est prêt. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il est prêt pour faire 10 sacs dans la saison, mais il est prêt à jouer dès le premier jour. Il est costaud et en plus il est agile pour son gabarit. C'est ça qui est impressionnant avec lui, c'est qu'il est quand même explosif. C'est un gros. On peut penser à Ejie Penessa par exemple, que les Bills ont pris l'année dernière. C'est vraiment un defensive end qui va te contrôler un côté. Il a des mains violentes, il est imposant, mais en plus il bouge très bien. Alors après, c'est vrai qu'il était plus explosif en 2019, mais en 2020, enfin l'intersaison, il a pris pas mal de poids justement pour être encore plus costaud. Donc il a perdu un petit peu d'explosivité, donc un petit peu de production. À voir ce qu'on va lui demander à NFL. Est-ce qu'on va lui demander de continuer à être un si gros gabarit ou au contraire de perdre un petit peu du poids pour retrouver un petit peu de vitesse? Mais c'est un joueur vraiment abouti déjà.
Oui, je suis assez d'accord. C'est un joueur qui, je trouve qu'il est limité. En termes d'explosivité, de vitesse pure, peut-être même de capacité athlétique en général. Mais par contre, c'est un joueur très intelligent qui maximise son potentiel. Et du coup, c'est en effet, on aurait presque pu le mettre en valeur sûre s'il n'avait pas été en chapeau 2, au sens où c'est un joueur, ça serait quand même très étonnant qu'il n'apporte pas en NFL. Après, à quel niveau il apportera? Est-ce qu'il deviendra un remplaçant de Dux, un titulaire de Dux? C'est un autre débat. Mais c'est un joueur qui est rassurant. C'est un joueur qui est rassurant et je pense en effet que, par exemple, si de l'autre côté t'as un Demarcus Lawrence, un rapide comme à Dallas, bah c'est pas mal de se dire je couple ça avec un defensive end plus costaud qui va me bloquer l'autre côté et qui, on va dire, complétera bien mon rusher rapide. Donc c'est vrai que on le voit, hein, il y en a beaucoup entre 110, 115, 116 kilos dans cette liste. Il n'y en a pas beaucoup qui font son poids, donc il a, on va dire, la chance d'être un peu unique.
Oui, oui, oui.
Jason Owe. Alors Jason Owe, 1m96, 114 kg, Penn State. Quand je vous ai parlé de ses stats, je n'ai pas mentionné de sac. C'est pas une erreur de ma part, c'est qu'il n'en a pas fait cette année. C'est vraiment pour moi une énigme totale. Alors décris-nous... Jason Owe en un adjectif et explique-nous pourquoi, pour toi, il est chapeau 2.
Il est rapide, très rapide. Alors bon, il ne faut pas se fier au temps qu'il a fait là récemment de 4.38, c'est un temps d'entraînement qui n'est pas officiel, mais même, tu le vois dans les matchs, il est très rapide. C'est quelqu'un d'hyper athlétique, que ce soit pour tourner le coin, mais que ce soit aussi pour changer de direction. C'est quelqu'un vraiment de très très vif. Après, tu vois, puisqu'on parle des stats, c'est vrai qu'il n'a pas fait de sac cette année. Mais par contre, quand tu regardes son pass rush win rate, tu sais, la tendance à gagner son duel quand il attaque la poche, ben, il était bon, son pass rush. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas fini les actions, mais il était quand même relativement efficace. Après, c'est quelqu'un d'assez brut. Voilà, il y a vraiment du travail à faire avec lui, mais le potentiel est là. Ensuite, il faudra voir un petit peu quelle position on va l'aligner, parce qu'il est quand même peut-être pas assez costaud pour jouer defensive end dans une 43, et puis il n'a pas vraiment été utilisé en couverture, donc pour être un outside linebacker dans une 34, il y a là aussi du travail à faire. Mais c'est un monstre athlétique, c'est Daniel Hunter des Vikings, quoi.
Ah, Daniel Hunter, moi j'ai une autre comparaison, mais on y reviendra, mais je vois ce que tu veux dire. Après, moi honnêtement, je ne sais pas si je préfère pas en linebacker de 4-3, tu vois. Je me dis que ça dépend dans quel système, il faudrait un système un peu hybride, mais tu l'as dit, il est explosif, il est rapide, il est athlétique, tout ce qu'on veut. Mais alors oui, il est brut, quoi, il est brut, son deuxième mouvement est à travailler, son intelligence de jeu est à travailler, sa technique est à travailler, le placement de ses mains par moment peut rendre dingue. Donc bon, ça fait partie de cette catégorie de joueurs qui ont des capacités athlétiques tellement folles que quelqu'un prendra le risque, mais il faut qu'il soit bien coaché. Parce que là, il y a un potentiel bust si jamais il se développe jamais. Je suis d'accord que bon, il y a du plus et du moins, mais attention à ce joueur. Le dernier, et je vais t'essayer d'en parler parce que moi j'ai essayé de jeter du chapeau deux ou trois fois, mais tu me l'as remis à chaque fois. Ronnie Perkins, Oklahoma. Donc explique-moi, essaye de me convaincre avec un adjectif et un argument de pourquoi Ronnie Perkins mériterait d'être dans le chapeau 2 à la place, par exemple, d'un Joe Tryon ou d'un Quincy Rocher dont on va parler après.
Bah, déjà parce qu'il est constant depuis 3 saisons avec Oklahoma. Voilà, déjà, tout simplement. C'est un joueur qui produit sur le terrain, il joue. Alors, il paye pas de mine parce qu'il a pas un gabarit vraiment typique, quoi. Il manque un petit peu de taille. Il manque un petit peu de rapidité si c'est pour le faire jouer dans une 3-4. Mais il est très complet. Il est bon pour attaquer la poche. Il est très bon en run-stop. Il produit. Il a beaucoup d'expérience avec Oklahoma. Il a joué, je sais pas combien de matchs, une trentaine. C'est un gabarit un peu atypique, mais tu vois, par exemple, au Bengals, il y a Carl Lawson, pareil, il sortait d'Auburn, on se disait, qu'est-ce qu'on va faire de ce joueur? Il manque de taille, de gabarit, en même temps, il est bon en pass rush, comment on fait? Et puis, ça marche plutôt bien, tu vois. Alors, c'est pas un joueur qui va être, lui non plus, un All-Pro, mais il va avoir sa place dans un 53 et il va jouer, quoi. Moi, j'aime bien Ronnie Perkins. Alors, je l'aime pas comme un premier tour, mais au deuxième tour, je valide tout à fait.
Oui. Je comprends ton argument. Moi, j'ai du mal avec Ronnie Perkins parce que pour moi, c'est un edge de complément. C'est en effet, c'est des mains violentes et une bonne défense de course. C'est bien. Ça peut aider sur première ou deuxième tentative. J'ai du mal à en faire un titulaire sur 3 tentatives, par exemple. Moi, je l'imagine vraiment comme un joueur un peu situationnel que tu vas être très content de mettre sur certains match-up, que tu vas être... très réfractaire à mettre sur d'autres. Donc j'ai du mal à le voir aussi haut parce que je le trouve vraiment limité, pas tant. Alors oui, dans le système, parce qu'évidemment il y a en 4-3, mais surtout par rapport à ce que tu affrontes en face, ça sera pas forcément un atout d'avoir pour moi. Et alors pour le coup, lui, il a des mains très violentes, il va au mastic, mais alors si ça passe pas, il n'y a pas de deuxième mouvement. C'est, ça passe, ça casse. Donc. Je suis un peu plus sceptique sur le profil. Bon, ça reste un très bon joueur et on parle que de très bons joueurs et je suis pas en train de dire qu'il va finir au 6e tour de draft. Hein. Soyons clairs, c'est toute proportion gardée. J'ai plus envie de prendre un risque Jason Away qu'un risque Ronnie Perkins, par exemple.
Ouais, je comprends. Mais en même temps, c'est un petit peu le débat entre le plancher et le plafond.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ronnie Perkins, il a un plancher vraiment très solide. Moi, il me rassure, ce gars-là. Et puis, même s'il joue pas toutes les 3e tentatives, il jouera quand même beaucoup de snaps et ça me suffit largement pour un 2e tour. Et oui, Jason Owe, lui, par contre, il a un plafond très, très haut. Et tu peux te dire, peut-être dans 2 ans, ça sera un monstre. Mais c'est peut-être. Alors que Ronnie Perkins, je suis beaucoup plus sûr.
Non, mais c'est ça. C'est l'appétence au risque. Et puis aussi, voilà, ce dont tu as besoin. Parce que, imaginons, on est au 3e tour, Perkins est tombé. Peut-être qu'il y a une équipe qui est déjà pas mal en edge qui va dire ah tiens c'est le profil qui me manque et puis ça peut le faire rapidement. Donc après bon ça dépend, voilà, c'est des opportunités. Je pense que ce genre de joueur, il y a des équipes qui vont le vouloir. Après du coup il peut bouger de 40 places à la draft, pas tellement par rapport à son niveau mais par rapport à l'équipe qu'il voudra et la sélection qu'ils auront. Bon, ça c'est notre deuxième chapeau. Donc on a déjà parlé de 8 très beaux joueurs. Il nous en reste 6 à évoquer, des valeurs sûres, des innings, des sleepers. Eh bien, on va pas perdre de temps et on va tout de suite passer à la deuxième partie de notre podcast.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
Les valeurs sûres. On a 2 joueurs. Moi, j'ai pris un petit risque sur la valeur sûre. J'annonce tout de suite. Hein, c'est parfois, on est amoureux et on assume. Toi, t'as pris entre guillemets un joueur de Miami. Du coup, le fameux 3e, un joueur assez intéressant et assez connu par les amateurs de NCAA. C'est Quincy Rocher. Donc 1m90, 111 kilos, 45 plaquages, 14,5 pour perte, 4,5 sacs.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Une passe défendue, 3 fumbles récupérés, 2 fumbles forcés. Ancien joueur de Temple, si je ne dis pas de bêtises, qui avait été extrêmement productif à Temple. Il est passé à Miami pour montrer qu'il pouvait produire à un niveau un peu plus élevé. Explique-nous ce que tu as aimé chez lui et pourquoi tu en fais une valeur sûre.
Ben, moi, on me dit valeur sûre, je prends une valeur sûre. Voilà. Comme tu dis, Quincy Routier, on l'a vu avec Temple, il était très bon, très productif. Et puis, il a pris un risque. Hein. Il a pris un risque dans une conférence plus relevée, la conférence ACC. Il a pris le risque d'aller dans une université qui est sous les feux des projecteurs, Miami. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il a été productif. Donc, du coup, pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. Il a une bonne technique de main. Il a une bonne variété de mouvements. Alors, il n'a pas le plus gros des gabarits. C'est pas le plus rapide non plus. Mais voilà, il a fait déjà 2 universités, 2 situations différentes. Et à chaque fois, il a été bon. Moi, pour moi, c'est une valeur sûre.
Oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est peut-être même lui que j'aurais mis en chapeau 2. Tu l'as dit, la diversité des mouvements, c'est important. Parce qu'on a beaucoup de joueurs bruts qui parfois manquent un peu de diversité. Là, on est sur un joueur qui peut à peu près tout faire. Alors, on peut considérer qu'il ne le fera jamais parfaitement, mais il le fait déjà très bien, ce qui est déjà suffisant pour la NFL. Et je pense que dès le premier jour, il peut être utile, parce que oui, c'est un profil qui est très intéressant. En défense de course, il est loin d'être inutile. Il fait aussi le travail, pour le coup. Donc, je suis d'accord. C'est un joueur qui a un profil vraiment intéressant et qui est très varié. Moi, de mon côté, je vais vous parler d'un joueur de Duke, 1m88, 120 kg, au prénom délicieux, puisqu'il s'agit de Victor Dimukeje. 39 plaquages, 8 pour perte, 7 sacs et demi, une passe défendue, un fumble recouvert et 2 fumbles forcés. C'est mon crush de cette année, on va le dire hein, clairement. Il y en a qui l'auraient sûrement mis en énigme, mais il y en a qui ne l'auraient pas évoqué. Ben, moi, je vous le mets en valeur sûre, parce que c'est un joueur qui est rapide. C'est un joueur qui est explosif. Techniquement, c'est bon. QI défense, alors là, on est tout en haut. Vraiment, il fait très peu de mauvaises décisions. Il a un moteur. Il est un peu comme Joseph Ossai. Il est actif du début à la fin du match. Il n'y a pas de moment où il disparaît. Il est toujours là. Alors, c'est sûr que aujourd'hui, il fait partie de ces joueurs qui sont moyen plus partout et excellent nulle part. Donc ça peut effrayer certains, je peux le concevoir. Après, il est à Duke, hein. C'est pas non plus une université pour produire des, enfin qui est la plus grande université pour produire des edge. Donc peut-être qu'avec un coaching un peu différent, il peut vraiment maximiser son potentiel. Mais pourquoi j'en fais une valeur sûre, c'est que pour moi, à minima, ça sera un excellent remplaçant. Et je serais pas étonné du tout qu'après 1 ou 2 ans à apprendre, ça soit un titulaire. Solide en NFL. Je dis pas qu'il va devenir All-Pro, là encore, hein, on est sur des valeurs sûres, pas sur le haut du panier, mais c'est un joueur qui, pour moi, est très rassurant, parce qu'on parlait de plancher, pour moi, son plancher est très haut.
Ouais, c'est vrai, c'est un très bon joueur, ouais. C'est un peu une surprise. Alors, il produit déjà hein, depuis 2-3 ans, mais c'est vrai que, par exemple, Duke, cette année, moi, j'ai regardé Duke pour voir le joueur qui est à son opposé, pour voir Chris Rumpf, qui lui aussi est un defensive end, un pass rusher, et c'était vraiment le joueur que je voulais voir. Et puis, je sais plus, je crois que c'était contre Boston College, ou enfin bref, un match de Duke. Et puis en fait, c'est Dimukeje qui a crevé l'écran. Et il a fait une très bonne saison également. Et puis, comme tu dis, un joueur complet. Après, il manque peut-être un petit peu de gabarit, il y a encore du travail technique, mais oui, effectivement, c'est un très bon joueur.
Oui, c'est sûr que la technique, il peut l'obtenir. Le gabarit, bon, Malheureusement, il sera toujours un peu limité. 1m88, c'est petit, ça c'est sûr. Après, on en a vu hein, des petits réussir en NFL, mais c'est... il a quand même 120 kilos et il n'hésite pas à aller au mastic. Mais c'est vrai que moi, c'est un joueur dont... qui va en surprendre plus d'un, je vous le dis. Et qui ne dépassera pas le troisième tour, je vous le dis aussi, je vous l'annonce. C'est...
Oh.
Ah non, mais je vous le dis, hein, c'est annoncé ici... On ressortira les extraits audio quand il aura été sélectionné en sixième choix par le, en sixième tour par je sais pas qui, mais moi je vous le dis, c'est il va surprendre du monde. Il est vraiment resté dans l'ombre parce que Duke en effet, on va en parler aussi dans les sleepers, mais il y a des universités qu'on regarde moins que d'autres. Duke, on va dire que l'année d'Daniel Jones, on a beaucoup regardé Duke. Là, cette année, c'était un peu plus compliqué. Donc n'hésitez pas à aller regarder les vidéos. Parce qu'il y a vraiment un beau profil.
Ouais.
On va passer aux énigmes. Et alors, ton énigme, c'est un joueur qui est très... On va dire que tout le monde n'est pas d'accord sur sa valeur. Daniel Jeremiah, par exemple, en fait un premier tour dans quasiment toutes ses mocks. D'autres en voient un joueur extrêmement limité. Et le fait qu'il ait opt-out n'aide pas à ça. Tu viens de parler de Joe Tryon. De Washington, 1m96, 118 kg, 41 plaquages, 12,5 pour perte, 8 sacs et une passe défendue. Il a tout pour être un grand, mais il y a encore, on va dire, des gros points d'interrogation. Donc vas-y, parle-nous de ce joueur.
Oui, ben, il est positif déjà. C'est quelqu'un d'explosif. Dès que le ballon est engagé, boum, il est parti. C'est comme une balle de fusil. De suite, il va à l'attaque. Il fait du bon bull rush, vraiment, il défonce les gars devant, il a des mains violentes. C'est un bon joueur explosif et en même temps costaud. Alors pourquoi j'en fais une énigme? Alors c'est sûr que déjà il y a le renoncement de cette année, on aurait bien aimé le voir cette année jouer, même si la Pac-12 a eu une saison un peu écourtée, mais quand même, ça serait été bien de le voir 4 matchs. Ensuite, pourquoi j'en fais une énigme aussi, c'est on va l'utiliser dans quel système en fait ce joueur, parce que il n'a pas le gabarit pour être defensive end dans une 43. Ensuite, donc a priori, ça serait un linebacker dans une 34 à l'extérieur, mais alors c'est vraiment un pass rusher exclusif. Moi, je ne l'ai jamais vu en couverture avec Washington. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable, mais à mon avis, il y a quand même du travail à ce niveau-là. Et puis, bon, Joe Tryon, c'est une saison et une belle. Alors, ok, d'accord, je suis dithyrambique sur Gregory Rousseau, qui lui aussi n'a fait qu'une seule saison. Donc, je ne condamne pas du tout Joe Tryon, mais c'est vrai que je veux en voir plus. Moi, je trouve qu'il a encore des limites. Il peut apporter des choses. Tout à l'heure, tu parlais de joueurs situationnels. Oui, pour des situations de pass rush sur 3 tentatives, on verra Joe Tryon. Est-ce qu'on le verra sur les 3 tentatives? J'ai encore un peu des doutes.
Eh bien, je ne peux que te rejoindre. En effet, c'est tout le problème de ces opt-out. Hein. On ne cesse de dire podcast après podcast. On n'a jamais eu autant de joueurs dont on peut se dire on n'en a pas vu assez. Il y en a toujours quelques-uns dans une draft, là il y en a beaucoup. C'est vrai que il manque parfois de constance, c'est-à-dire qu'il fait des très beaux highlights, mais quand tu regardes un match en entier, alors lui par contre il y a des moments où il disparaît un petit peu. Il semble un peu soft parfois. La défense de passe c'est marrant, c'est que moi j'avais vu plutôt des séquences que j'avais trouvées intéressantes. Faudrait que je retrouve sur les deux matchs que j'ai étudiés là, de 2019. Mais c'est vrai qu'après, on est sur des profils très bruts. Et comme beaucoup de joueurs ici, le plus gros de l'impact qu'ils peuvent faire en NFL, c'est en deuxième année si tout se passe bien, troisième année à peu près pour tous. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre, quoi. Et tu le dis, il va jouer, à mon avis, il va jouer en équipe spéciale, lui, pour le coup. Il va jouer sur certaines situations et si jamais ça marche, un peu plus et encore un peu plus et encore un peu plus et on verra jusqu'à quel niveau. Mais oui, il faut avoir un plan pour lui. Clairement, il faut dire voilà, je veux l'utiliser pour telle action et telle action. Et je suis d'accord avec toi, en 4-3, ça risque d'être un peu compliqué d'utiliser un tel profil. Donc une 3-4 serait certainement plus prudent. Même s'il est très grand, il n'est pas forcément très lourd. L'autre profil, moi, dont je vais vous parler, là encore, un profil que j'avais déjà évoqué, je crois, dans un précédent podcast, c'est Jordan Smith, de UAB, Et je vais faire plaisir à Grégory Richard, qui aime les cas sociaux. Jordan Smith, en 2017, il a fait partie, pour ceux qui ont suivi, de ces joueurs de Florida qui se sont fait exclure pour des histoires de cartes de crédit, de fraude aux cartes de crédit. Enfin, je ne sais plus exactement le détail, mais du coup, il est passé par le JUCO, le Junior College, pardon, et il a rebondi à UAB. C'est un joueur que j'aime beaucoup sur le terrain. Alors, à voir comment il se comporte en dehors, du coup, parce que, bon, c'est des joueurs qui ont eu de telles casseroles. On a quand même envie de les interviewer pour voir ce qu'ils ont dans la tête, parce que peut-être qu'il a mûri et a appris de ses erreurs, peut-être pas. Donc, ça, c'est un point. Donc, Jordan Smith, c'est 2m01, 115 kg, 41 plaquages, 9 pour perte, 4,5 sacs, une interception, une passe défendue. C'est un joueur que je trouve ultra rapide, ultra explosif, avec une diversité de mouvements vraiment folle. Pour moi, en 3-4, il est parfait. Il peut défendre la passe, il peut faire du pass rush. Après, là encore, on est sur un profil super brut, quoi. De temps en temps, il y a les feeds qui se déconnectent, et on se dit, mais qu'est-ce que t'as foutu sur cette séquence d'action, quoi. C'est frustrant, ce type de joueur. C'est, il va faire deux cartons, on se dit, ok, le mec, c'est un premier tour. Et puis là, tu vois le carton d'après, tu dis « Ok, non, en fait, je vais peut-être te mettre en fin de détour ou peut-être au troisième jour. » C'est vraiment ces joueurs, c'est montagnes russes qu'on voulait regarder sur le terrain. Donc lui, il va falloir qu'il soit canalisé, il va falloir qu'il soit coaché. Mais du coup, la question, c'est « Est-ce qu'il peut être coaché ?» Donc c'est pour ça que, alors lui, vraiment, si j'étais un insider, j'aimerais beaucoup être dans les interviews de Jordan Smith pour voir ce qu'il raconte, parce qu'à mon avis, ça va beaucoup influencer sa place à draft. Et voilà, c'est un joueur qui a tout, physiquement, techniquement, explosivité, etc. Mais alors, il va falloir bouffer de la vidéo et travailler sur la prise de décision. T'en penses quoi, Jean-Mi ?
Ben oui, j'en pense ce que tu as dit, hein. Donc c'est un pari, en fait, Jordan Smith, c'est un pari. C'est un pari parce qu'il est grand, il a une super envergure, il est rapide. Tu le vois, tu te dis waouh, ça peut être vraiment un pass rusher extraordinaire. Et puis, on l'a vu au Senior Bowl, il était là, mais alors, sur le terrain, il faisait que des erreurs, il partait avant le snap, enfin, des fautes de concentration. Moi, la technique, je ne la trouve pas si aboutie que ça, il y a vraiment du boulot. Donc, c'est un pari sur le potentiel, c'est un pari qui peut être payant, et je dirais même pas risqué, parce que c'est quelqu'un qui, à mon avis, partira vers le cinquième tour, donc c'est pas un très gros risque, mais voilà, c'est un pari sur l'avenir.
Ouais, je pense que cinquième tour, c'est bien pour lui. C'est vrai que c'est quelque chose... Je suis un peu rouillé à la présentation des podcasts. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup fait sur des autres joueurs. Mais comme on est en avance, on reviendra à la fin du podcast sur des projections pour que les gens puissent vraiment cadrer les joueurs par rapport à leur tour de draft. On va parler d'abord de nos sleepers. Et alors là, je vais te laisser parler parce que le tien, j'ai commencé à le regarder du coup ce matin parce que honnêtement, il est passé complètement sous mon radar, je l'avoue avec humilité. Raymond Johnson, 1m90, 122 kg, Georgia Southern, 35 plaquages, 13,5 pour perte, 5 sacs, un fumble recouvert, un fumble forcé. Explique-nous ce qui te plaît sur ce joueur qui est pour l'instant dans l'ombre. Mais dont toi, tu vois un gros potentiel.
Oui, il a du potentiel, ouais. Après, c'est un sleeper. Hein. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il produit déjà depuis 4 ans. On le voit. Alors après, c'est vrai que j'ai un petit peu cherché aussi parce que j'avais envie de mettre en lumière la conférence Sunbelt. Parce que ce n'est pas une des meilleures conférences, mais c'est quand même une conférence où il y a du football, où ça joue, où tous les ans, ça sort des joueurs pour la NFL. Il y a des équipes comme Appalachian State, comme Louisiana. Donc lui, il vient de Georgia Southern. Et voilà, c'est un joueur qui produit. Alors après, pour la NFL, évidemment, il y aura une transition, et pas seulement de niveau. Il y aura une transition sans doute sur son poste aussi, puisque Georgia Southern jouait en 34. Et lui, il jouait sur le premier rideau. Sauf qu'il n'a pas le gabarit pour jouer sur le premier rideau en NFL. Donc moi, je pense que sa meilleure projection, ce serait de rester defensive end, mais dans une 43. Mais voilà, c'est un joueur qui est costaud, qui en même temps, alors c'est pas le plus rapide, mais qui n'est pas lent non plus. C'est un joueur qui est plutôt polyvalent, qui peut faire plein de choses. Il me fait penser un petit peu avec son gabarit à Everson Griffin, tu vois. C'est-à-dire ce joueur qui n'est pas le plus explosif, mais qui est quand même présent, qui est costaud pour défendre la course, qui peut aussi attaquer un petit peu la poche. Voilà, moi c'est un joueur que j'aime bien. Raymond Johnson, un jour à suivre.
Oui, bah, forcément, j'ai une année très limitée du joueur, parce que j'ai commencé à regarder ce matin, mais en effet, il ne sera pas utilisé de la même manière en NFL qu'à Georgia, ça c'est sûr. Après, oui, il a l'air d'avoir du potentiel. Il a l'air d'avoir un joueur très soudain. Et en effet, la Sunbelt est parfois un peu mal aimée. Et c'est pas forcément à raison, parce que c'est un beau réservoir de talent. Donc, tu fais bien de mettre en lumière. Mais moi, de mon côté, j'ai mon Daniel Hunter à moi. Il s'appelle Dayo Odeyingbo. Alors, on parle d'université... Alors, là, on va parler de la SEC, mais on va parler du parent pauvre hein, de la SEC, puisqu'on va parler de Vanderbilt. Alors, Vanderbilt, si vous êtes fan de baseball, vous regardez souvent l'université de Vanderbilt. Si vous êtes fan de football, un peu moins. C'est d'ailleurs, merci au baseball, c'est grâce à ça qu'ils sont toujours dans la SEC.
Ou alors, vous regardez Sarah Fuller.
Ou alors, vous regardez Sarah Fuller, qui est devenue la première femme à inscrire des points en université. 1m98 pour 125 kg, 32 plaquages, 8 pour perte, 5,5 sacs et une passe défendue. C'est un monstre physique. C'est un monstre physique. Il est polyvalent. Moi, vraiment, je trouve qu'il y a du Daniel Hunter en lui. Mais alors, on se répète, hein, on se répète encore et toujours. C'est brut. Techniquement, c'est brut. Et je pense que le fait d'évoluer à Vanderbilt n'aide pas. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a en lui vraiment une possibilité de diversifier ses mouvements extraordinaires. Et finalement, il a l'air d'être sous-utilisé à Vanderbilt. C'est vraiment frustrant d'étudier ce joueur parce qu'on se dit qu'il pourrait faire tellement plus. Et il en montre finalement pas tant que ça. Et du coup, j'ai envie de prendre le risque. Là, on est vraiment sur du sleeper, hein, donc on ne parle pas des premiers tours. Mais c'est un joueur où je me dis... Il est pas mal en pass rush, il est pas mal en défense de course. Ok, techniquement, sa qualité de plaquage, etc., c'est des choses à travailler. Mais alors vraiment, lui, si tu le fais bien travailler, ça peut être un retour sur investissement énorme. Et je le dis, alors lui, année 3, année 4, il peut devenir titulaire sans problème. Mais là encore, l'interview sera décisive, savoir ce qu'il a dans la tête. Il va falloir qu'il travaille beaucoup, qu'il apprenne beaucoup. Mais je le vois dans une 4-3, là, je le vois s'éclater à long terme. Et il y a vraiment quelque chose dans ce joueur qui me plaît.
Ouais, mais tu peux, hein, ouais. Il est grand, il est puissant, on voit de la polyvalence quand il joue, effectivement, il peut attaquer extérieur, il peut attaquer intérieur. C'est vraiment un potentiel athlétique. Après, il faudra voir quand même la blessure qu'il a vue là, à la fin de la saison.
Oui, tout à fait.
Voir ce que ça donne. Et puis, en plus, voilà, comme tu disais, il n'est vraiment pas aidé parce qu'il joue dans la meilleure conférence universitaire, mais dans la plus mauvaise équipe de cette conférence. Ce qui veut dire quoi ? Qu'il affronte toutes les semaines des tackles offensifs qui sont très performants, très bons. Et lui, de son côté, c'est le joueur à marquer. Donc, du coup, toutes les attaques adverses le marquaient à lui. Donc, du coup, c'était très difficile pour qu'il soit bon. Et quand même, il a réussi à produire. Donc, c'est un joueur avec... Il y a du potentiel, effectivement. Il y a du potentiel.
Non, mais c'est ça qui plaît. C'est-à-dire que, bah, je disais, quoi, Vanderbilt, forcément, quand t'es dans la SEC, tu vas affronter des petites équipes hein, que peu de gens connaissent. Hein, des Florida, des Alabama, des choses comme ça. Enfin, Alabama, c'est de l'autre côté, mais on se comprend. C'est vrai que, voilà, il a réussi à produire... il avait montré des belles choses contre South Carolina, il a montré des belles choses contre Missouri, notamment Missouri, je crois que c'est ça qui faisait qu'il a un très bon grade chez moi, c'est que j'avais adoré ce match-là. Voilà, c'est un joueur, c'est un sleeper, c'est la définition du sleeper, mais voilà, il y a certains joueurs, parfois l'université qu'ils ont choisi ou qu'ils ont été obligés de prendre, fait que ça limite un peu leur exposition nationale, même quand on est dans la SEC. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Et du coup, je disais, j'ai pas vraiment pour tous les joueurs donné le potentiel de choix à la draft. Donc on va retourner sur des joueurs et tu vas me dire à quel endroit tu les vois. Et moi, je vais te dire si je les vois différemment. On va dans le chapeau 1. Quitty Pay.
Au premier tour, je pense top 20.
Oui, top 20, ça me paraît bien. Aziz Ojulari.
Premier tour aussi, je dirais entre 15 et 30. C'est une fourchette un peu large, mais ouais, je pense qu'à partir de la mi-premier tour, il est en jeu et jusqu'à la fin du premier tour.
Ouais, je verrais un petit peu plus large en incluant le début du second, mais on est dans ces eaux-là très clairement. Jaylen Phillips.
Ah, je pense que c'est une fin de premier tour, début second. Ouais. Donc on va dire ouais, du 25-40, 25-35.
Moi, je dirais second tour pour lui. Je suis assez d'accord avec ça. Grégory Rousseau, qui était annoncé top 10 avant le début de la saison et qui peu à peu se descend dans les mocks, comme quoi il fallait peut-être pas opt-out. Dis-moi, toi, tu le vois vers quelle place aujourd'hui ?
C'est variable. Moi, j'ai envie de te répondre le 29 mars, en fait, tu vois. Donc, on attend un peu. Et...
Après, c'est Pro Day.
Ouais, c'est ça, parce que le Pro Day, ça va être important, parce que c'est un joueur hyper athlétique, et ce qu'il a montré sur le terrain, c'est vraiment quelqu'un d'hyper athlétique, donc c'est pas juste pour lui qu'il n'y ait pas de Combine cette année, parce qu'avec le Combine, moi je suis certain, ce mec, il part, mais il échappe pas au top 15, c'est impossible. Là, forcément, voilà, il a renoncé, alors c'est bizarre d'ailleurs, les observateurs ne font pas cette remarque pour Jamar Chase, ne la font pas pour Mika Parsons, ils la font pour Gregory Rousseau. Alors il y a peut-être des raisons, mais moi je le vois quand même au premier tour, je ne le vois pas échapper au premier tour.
Ah, autant le parallèle avec Jamar Chase, oui, mais Mika Parsons, on en a vu un peu plus, je trouve. Mais bon.
Oui, c'est vrai, il a fait deux saisons pleines, oui.
Mais en effet, c'est des profils toujours un peu clivants. Bon, je pense, premier tour... entre 10 et 30, mais en réalité, je pense qu'après les Pro Day, ça sera entre 10 et 20. Moi, je suis un peu dans la même vision que toi. On passe dans le chapeau 2, et là, on va s'amuser. Alors, je vais prendre peut-être le plus facile, Joseph Ossai.
Fin premier, début second. Après, ouais. Début second, ça serait pas mal, je trouve.
Ouais, c'est... moi, je t'ai dit, à partir des Titans, je lâche pas le truc, tu sais. À partir des Titans, et après, il finira par être pris, il dépassera pas le 40 ou par là. Carlos Basham.
Deuxième tour, Carlos Basham. Deuxième tour. Alors, solide deuxième tour, mais il manque un petit quelque chose pour être premier, selon moi. Voilà, il manque un petit peu de soit de rapidité, alors l'explosivité, il en a pour son gabarit, mais c'est pas Ojulari non plus. Donc, moi, je pense que c'est un solide deuxième tour.
Bon, Ronnie Perkins, ton copain Ronnie Perkins.
Ouais, ben moi je le vois bien au second tour aussi. Après, j'entends ce que tu dis, il peut partir au troisième. C'est vrai qu'il n'a pas une qualité exceptionnelle, mais il fait tout à peu près bien. Donc moi je le vois bien au deuxième tour aussi.
Et moi par contre, là je le vois deuxième partie de troisième tour.
Mais, ah oui, carrément.
Là, ouais, là on a une grosse différence d'analyse sur le coup parce que ben, je peux te dire, dans mon big board personnel, il est à la magnifique place de 15e. Donc, il y a du monde quand même devant lui. Il y a tous ceux qu'on a dit. Il y a aussi du Patrick Jones, du Amilcar Rachin, du Oza Odigizua. Bon, après, c'est pas tous ces mêmes profils, hein, évidemment. Donc, il y a ça aussi qui rentre en jeu. Là, on s'amuse à faire des projections, mais selon les systèmes, vous aimerez pas les mêmes joueurs. Jason Away, du coup, tu le vois.
Ben c'est possible qu'il parte au premier, hein, vu le potentiel athlétique qu'il montre. Ah, et carrément. On sait très bien. Ah non, mais moi, ce ne serait pas mon choix. Moi, je le prends à partir du second tour, et même de la deuxième partie du second tour. Mais on le sait bien, les franchises NFL, souvent, le craquent sur les potentiels athlétiques. Et lui, il a un potentiel athlétique énorme. Donc, c'est possible qu'il parte au premier. Après, si tu me demandes à moi, je le prends à partir du milieu de deuxième tour. Tu vois, par exemple, les Rams, voilà. À ce niveau-là, 56, ils sont quoi, 57, voilà.
Ouais, je suis assez d'accord. Milieu de second tour, début de troisième tour, c'est par là que j'imagine aussi. Quincy Rocher.
Quincy Rocher, ça peut être une fin de second, sinon c'est un troisième tour. Comme on disait tout à l'heure, il est solide, c'est une valeur sûre, quelqu'un qui fait tout bien, il n'y aura pas de souci avec lui, il va jouer, mais après, voilà, il ne fait rien d'exceptionnel non plus, il n'a pas une qualité élite. Donc moi je pense fin de second, si une équipe n'a pas pu trouver un pass rusher au premier tour, il peut partir en fin de second, genre aux Chiefs par exemple, sinon c'est une troisième tour.
Ouais, je suis d'accord, troisième tour pour moi aussi là-dessus. Donc Victor Dimukeje, j'ai dit, hein, de toute façon je voulais annoncer, il sera dans les trois premiers tours, toi tu nous l'annonces où ?
Moi j'aurais dit cinquième, hein, mais ouais. Pourquoi pas, hein.
Ah non, mais je note, tu sais, on va faire un... On va ressortir les best-of.
C'est ça, voilà.
Je te dis, je vais déchanter quand il sera sélectionné au sixième tour. Au niveau des énigmes, Joe Tryon.
Ouais, mais c'est dur à dire, tu vois.
C'est dur,
mais
hein. Joe Tryon, ouais. C'est terrible.
Ouais, ouais, mais bon, moi je dirais
quand même... Je sais pas quand c'est les Pro Day de Washington, mais il y a du monde à regarder. Hein. Les Pro Day de Washington, ah oui. Loupez pas ça non plus. Ouais, parce ouais, qu'il ouais. Y a du cornerback, il y a du beau monde à regarder.
Il y a du defensive tackle, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, ouais.
Ça, c'est sûr.
Bon, je pense quand même peut-être au deuxième tour, parce qu'il a vraiment des qualités. Je veux dire, il est explosif, il est puissant, il y a vraiment des qualités. Donc, je pense que deuxième tour, ouais, sinon un solide troisième tour. Tu vois, je ne sais pas si les Jaguars ou les Jets n'ont pas pris un pass rusher avant, il peut faire tout à fait la maille.
Oui, je pense qu'il va craquer la fin du second tour, à mon avis. Là encore, toujours ces questions de potentiel, etc. Je pense que ça va le faire, mais il peut descendre au début de troisième, ça ne me choquerait pas. Jordan Smith,
moi je le vois pas avant le quatrième, hein, peut-être même cinquième. Ah. Il est vraiment très brut comme gars. Hein.
C'est dur.
Après il y a du potentiel.
Non, je dis t'es dur. En vrai, j'avais fin troisième, quatrième. Donc bon, on est une petite différence d'analyse, mais pas énorme pour le coup. Raymond Johnson,
sixième.
Et tu sais que j'ai vu sur certains sites au quatrième tour là, j'étais étonné. Hein.
Oh.
Eh ouais, j'ai fait mes recherches du coup comme tu m'en as parlé. Sixième pour toi ?
Ouais, je pense sixième quand même, parce que voilà, la conférence, le changement de position, et il sera drafté. Pour moi, c'est sûr, il sera drafté, mais ouais, sixième tour.
Bon, là, du coup, je dis comme toi, puisque pour l'instant, j'ai pas encore vu assez pour avoir un avis. Dayo Odeyingbo, du coup. Ah, ça,
je le mettrais avant Raymond Johnson, parce que justement, lui, il a un potentiel athlétique qui fait que. Une équipe peut miser, peut parier sur lui. Donc
et il a la conférence.
Ouais.
Ça peut lui servir.
Oui, c'est sûr. Ouais. Alors, je dirais quand même fin quatrième, cinquième tour, pas avant.
Ouais, c'est ça. Fin quatrième, cinquième tour. Je suis assez d'accord là-dessus. Il n'y a pas trop de débat à avoir, à mon avis. Ok, bah je pense que voilà, on a fait le tour. Nos excuses à Patrick Jones de Pittsburgh. Nos excuses.
Et son compère Rashad Weaver aussi, de Pittsburgh.
Oui, Rashad Weaver aussi, à Cameron Sample de Tulane, à Shaka Tony de Penn State. Il y a beaucoup de joueurs dont on aimerait vous parler, mais on a forcément une durée un peu limitée. En tout cas, ce fut un plaisir, Jean-Mi. Mon petit doigt me dit qu'on se retrouve très bientôt pour parler de run stop, de ligne intérieure et de linebacker. Donc, on vous donne rendez-vous, vous l'avez compris, maintenant c'est le mardi et le jeudi. Et j'annonce un peu pour teaser, mais il y aura aussi le 1er avril, si je ne dis pas de bêtises, une mock draft avec des échanges. Donc, une mock draft sans aucun doute épicée. Donc, on vous donne rendez-vous. Merci beaucoup, Jean-Mi.
Merci Victor.
Et merci à vous pour votre écoute et on se retrouve très bientôt.
Allez, ciao tout le monde.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklass Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.